Pour avoir la jouée. Le capitaine s'assurait que tous les membres de l'équipage soient à leur poste.
Salut les matelots, salut.
Bonjour.
Les matelots.
Bonjour.
Ah la vache. Eh ben on a encore voulu faire des tests et ça n'a pas été concluant, manifestement.
Oui, il y a quelque chose qui ne marche pas bien.
Non, c'est tout cassé. Bonjour Pierre, bonjour Marie.
Hello.
Bonjour Yann.
Bon bah voilà, alors et nous revenons en studio. Hein,
bah oui.
Après cette interlude musicale. Bon, ça nous a mis que 5 minutes dans la tronche.
Oui, c'est pas grave.
C'est pas grave. Que c'est... non. Si direct, le mec il est pressé. Alors oui, en musique, vous avez ramené quoi à peu près?
Oh, du truc un petit peu bien bourrin.
Ah.
Et dont ben une voilà. chanson de 24 minutes.
Ah, parfait.
Non, t'es pas vrai.
Bah moi, de mon côté, j'ai pas mal de noise, du noise core. Et si on a le temps, j'ai un vieux bouche-tamboule. Mais alors, attention, hein, quel bouche-tamboule.
Je sais pas, j'ai même pas vu.
Ah, bah tu verras.
Si, ah oui.
Ah, si, si.
J'espère que c'est pas Michael Jackson. Hein.
Non, mais non.
Sinon, tu sors. Hein.
Promis, c'est pas du Michael Jackson.
Ouais, alors pour ma part, tiens, j'ai l'ordi qui est là.
Oui.
Nouveautés. Et puis la semaine dernière, alors vous étiez pas là, j'ai commencé une espèce de rétrospective 2023. Mm-hmm. J'ai commencé à diffuser des trucs qu'on avait déjà diffusés cette année et que j'avais bien aimé. Alors on va peut-être le finir là, enfin le finir, en tout cas le prolonger ce soir.
Très bien.
Voilà. En attendant.
Oui.
Voilà.
Qu'est-ce qui s'est passé?
Pendant les bonnes habitudes, c'est bizarre. Hein. Qu'est-ce que tu passes? Vas-y Pierre, fais-le.
Qu'est-ce qui s'est passé dans ton quartier le 24... Ah oui, pardon, oui. Le 24 novembre.
Oui, c'est...
L'effet Maride.
Maride.
Oui, effet Maride spécial science en cette journée nationale de la culture scientifique au Portugal. On commence avec la date du 24 novembre 1859. Eh bien, c'est la publication de L'origine des espèces par Charles Darwin.
Ça, je le savais.
Et cet ouvrage est considéré aujourd'hui comme fondateur de la théorie de l'évolution moderne.
La théorie.
Oui, exactement. En 1974, c'est la découverte de... Lucie, le fossile de l'espèce éteinte, d'Australopithecus afarensis sur le site d'Adar en Éthiopie par une équipe de recherche internationale dont faisait partie le célèbre Yves Coppens et qui avait travaillé à ce moment-là avec un tube dans ses oreilles.
Lucie in the sky.
With diamonds. Exactement, des Beatles. Ça lui aurait possiblement inspiré le nom.
Oui, je crois que c'est pour la légende, mais peut-être voilà. C'est pas ça du tout. C'était pour sa femme, bien sûr.
Et en 2021, la mission DART est lancée pour tenter pour la première fois une méthode permettant de dévier un astéroïde susceptible de s'écraser sur la Terre, autrement appelé astéroïde géocroiseur. Voilà,
ah oui,
c'était en 2021. Voilà, ça c'était les dates de l'histoire. Passons à présent à...
L'anecdote musicale.
Oui, on va s'intéresser à la date du 24 novembre 1968.
Alors, qu'est-ce qu'il y avait en 68 ?
Qu'est-ce qu'il y avait en 68 ?
France Gall.
Alors, c'est pas France Gall, mais c'est une femme.
France Gall.
Non, toujours pas, Pierrot.
Ah, vas-y, essaye.
Eh bien, Diana Ross and the Supremes sont numéro 1 du classement des singles américains avec Love Child, leur 11e numéro 1 aux États-Unis quand même. Et donc, la chanson est également remarquée pour avoir réussi à évincer le célébrissime Hey Jude des Beatles de la première place aux États-Unis. Quand
Diana
même
Ross.
Ah ouais, ouais, hein. Ah ouais, ouais.
Je ne savais pas. Tu ah oui, avec les Suprêmes. Ah oui, si,
on en apprend des choses avec l'effet Maride.
Oh là là, les Suprêmes.
Bah oui. Et du coup, on va terminer par un petit... Est-ce que tu te souviens, Pierre?
Un petit bouche-tamboule.
Non.
Ah non, c'est pour tout à l'heure. Un portrait de femme.
Oui, un petit portrait de femme. On triche, non. On triche.
Portrait de femme.
Un portrait de femme. C'est parti. Alors, né le 24 octobre 1868 à Saint-Mandé, dans le Val-de-Marne, Louise Eugénie Alexandrine Marie David... plus connue sous le nom d'Alexandra David-Nel, est une orientaliste tibétologue, chanteuse d'opéra et féministe, mais également journaliste et anarchiste, écrivaine et exploratrice, plus franc-maçonne et bouddhiste française.
Oui.
Tout ça.
C'est une sacrée semaine.
Ah oui. Alors, ses parents étaient Louis David, ami du géographe anarchiste Élisée Reclus, et Alexandrine Borgmans, belge catholique d'origine scandinave et sibérienne, si vous voulez tout savoir. Donc, durant toute son enfance et son adolescence, Alexandra, elle va côtoyer le fameux Élisée Reclus qui l'amène à s'intéresser aux idées anarchistes de l'époque et aux féminisme. Et aux féministes, oui, bah pourquoi pas, qui lui inspireront la publication de Pour la vie en 1898. Elle devient d'ailleurs une libre collaboratrice de La Fronde, journal féministe créé par Marguerite Durand et géré comme une coopérative par des femmes. Elle participe également à diverses réunions du Conseil national des femmes françaises ou italiennes. Et pour son biographe Jean Chalon, que j'apprécie particulièrement, c'est au musée Guimet que naît la vocation d'orientaliste et de bouddhiste d'Alexandra. En 1889, oui, à sa majorité, donc 21 ans, elle se convertit au bouddhisme, notant cet événement dans son journal intime qui est paru en 1986 sous le titre de « La lampe de sagesse ». Durant les saisons 1895-96 et 96-97, donc sous le nom d'Alexandra Myrial, Alexandra David occupe l'emploi de première chanteuse d'opéra d'Hanoï, en Indochine, s'il vous plaît, interprétant le rôle de Violetta dans La Traviata. De 1897 à 1900, elle partage la vie du pianiste Jean Auston à Paris et ils écrivent à deux Lydia, drame lyrique en un acte dont Jean Auston compose la musique et Alexandra le livret quand même. Elle a aussi écrit, eh oui. Le 4 août 1904, à Tunis, elle épouse un certain Philippe Nel, ingénieur en chef des chemins de fer tunisiens, dont elle était la maîtresse depuis le 15 septembre 1900, mon Dieu ! La vie commune fut parfois rageuse, mais toujours empreinte de respect mutuel. Bon, elle se termine définitivement quand même le 9 août 1911 par son départ pour son troisième voyage en Inde, qui durera de 11 à 1925. Alexandra arrive à Sikkim, donc état du nord de l'Inde dans l'Himalaya, en 1912. Elle se lie d'amitié avec le souverain de cet état de l'Inde, alors Sid Geong Tulku, j'imagine que ça se prononce comme ça, et visite de nombreux monastères bouddhistes pour parfaire sa connaissance du bouddhisme. En 1914, elle rencontre dans un de ces monastères le jeune Apur Yongden, je suis désolée, dont elle fit par la suite son fils adoptif. Tous deux décident de se retirer dans une caverne en ermitage à plus de 4000 mètres d'altitude au nord de Sikkim. Alexandra et donc ce fils partent ensuite pour la Corée, puis Pékin en Chine. Leur périple dura plusieurs années et traversa le Gobi, la Mongolie, puis une pause de 3 ans au monastère de Kumbum au Tibet, où elle traduit la fameuse, alors attention, Prajnaparamita, qui est un ensemble de textes du bouddhisme Mahayana, avant de repartir déguisée en mendiante et moine pour Lhasa qu'ils atteignent en 1924.
Oui, et pourquoi ? Pourquoi ?
Vas-y.
Parce que c'est interdit.
Bah oui, interdit aux femmes.
Oui, mais même aux étrangers,
oui,
aux occidentaux.
Voilà, exactement. Très bien.
Mais oui, bon, tu allais le dire. Non.
Oui, j'allais le dire, mais c'est très bien d'intervenir. Donc Alexandra, elle va rencontrer alors Swami Asuri Kapila. Ils y séjournèrent durant lesquels ils visitèrent la ville sainte et les grands monastères environnants. Mais malheureusement, Alexandra est finalement démasquée et dénoncée à Tsarongkhapé, le gouverneur de Lhasa. Elle rentre donc en France. En 1937, à 69 ans, Alexandra décide de repartir pour la Chine. Elle est quand même déterminée. Hein. Son but est d'étudier l'ancien taoïsme. Elle se retrouve en pleine guerre sino-japonaise et assiste aux horreurs de la guerre, de la famine et des épidémies. Fuyant les combats, elle erre en Chine avec des moyens de fortune. Elle rejoint le 4 juillet 1938 la ville tibétaine de Tatsienlu pour une retraite de 5 ans. Quand même rester dans le coin, hein, ouais. Hein. Et après avoir publié de nombreux ouvrages et avoir fait renouveler son passeport pour le Tibet en 1968, quand même, elle va s'éteindre le 8 septembre 1969, un an après, au bel âge de presque 101 ans.
Ça conserve le bouddhisme.
Le bouddhisme conserve.
Ah, Yann.
oui, je pense à mes intérêts aux religions, tout à fait.
Voilà.
En attendant. Vous croyez pas, on s'en fout. On va pouvoir écouter de la musique tous ensemble.
Ah, ouh, formidable.
Très bien. C'est la péniche, la saison 13, l'émission 11. Non, je pense à notre...
Il est peiné, là.
Ben oui, je suis peiné. On a essayé de connecter le studio 2 dans le studio 1 pour essayer de faire une émission en direct du studio 2. Ça n'a pas marché. J'étais en train de réfléchir à ce qui n'a pas marché.
Je pense que c'est logiciel.
Hein. On va refaire tout le réseau de Radio Primitive.
D'accord.
Enfin bon, on a une heure. Allez. Bienvenue à bord.
Visions of angels. Unlucky at best. Hiding in heaven. To exit from death.
Spirit-like lasers! Into the realm of the above! One of a kind! Without lack of a soul! Venture into me! We'll be right back.
Ouh là là. Alors, bon, on a commencé très fort. C'était un choix délibéré de ma part de vous présenter un groupe australien là, à l'instant. Wow,
c'était bien ça.
Et ils sont de Perth. Alors, est-ce qu'ils vont percer ça? On ne sait pas. Ça s'appelle Pincer Plus. Et c'est un album, un mini-album qui vient de sortir, qui s'appelle Hunting God Tapes Volume 2.
C'est un tout petit album.
Romance, parce que le volume 1 est sorti l'an dernier, à la même époque, en novembre. On vient de s'écouter la piste Visions of Angels. Alors sur celle-ci, on ne l'a pas trop entendu, mais il mélange, alors ça on l'avait plutôt entendu, le metalcore beatdown très lourd et très machin, et un peu de passage mat qui pète un peu comme ça, qui casse la tête, voilà, machin. Alors sur ce morceau-là, pas trop, mais enfin sur le reste de l'album, un petit peu, et puis ça finit avec un petit morceau au relent rap, trap, etc.
Ok.
Oui, alors voilà. C'est, oui.
Tu peux redire le nom, s'il te plaît ?
Pincer Plus.
D'accord. Bon, vous bah, direz sur le site.
Voilà. Bah, oui.
C'est ça qui te sert.
C'est dur.
Hein.
Pincer, comme pincer, je ne sais pas comment on dit. Pincer. Pincer Plus.
Pincer Plus. Tu retrouveras.
Très bien.
Est-ce que je suite ?
Oh ben vous pouvez.
Oh ben très bien. Alors je vais commencer ma sélection en vous parlant d'un groupe que l'on a déjà présenté il y a moult temps dans l'émission. Et j'ai nommé Nios. Donc le 27 octobre dernier, le duo britanno-finlandais, je ne sais pas si on dit comme ça, de noise avant-gardiste comme ils le disent eux-mêmes, est revenu avec un sixième album intitulé Waterfall Cave Fantasy Forever, sorti chez Pelagic Records. Et comme on était passé à côté, enfin surtout moi, je vous propose une petite session de rattrapage ce soir. Et pour se rattraper, j'ai choisi, c'était difficile, dis donc, la piste Follow the Hawk Moth, qui n'est autre que la 2.
Ah, bah la oui, mieux, évidemment.
La mieux. Et vous allez l'entendre hein, avec Follow the Hawk Moth. Nios nous propose une noise teintée d'un esprit free. J'irais même jusqu'à dire free jazz. Bon.
Oh là là.
La frappe est millimétrée, ultra précise, polyrythmique et percutante. Elle semble aliénée, toujours en mouvement, agitée et technique. Impossible pour le batteur de reprendre son souffle. Et côté riff, on est dans le cyclique, tantôt léger, tantôt rude et bouillonnant. Expérimental et instrumental, je préfère le préciser. Voilà ce qui vous attend avec Follow the Hawk Moth de Nios.
Bah si c'est ça le free jazz dont tu nous proposes, je suis plutôt j'aime bien.
C'est ça la fin. Bah non mais l'esprit free jazz dans, oui, dans comme disait Pierre le côté roue libre du batteur quoi.
Ah ouais, il est parti loin.
Ah, limite breakcore, free jazz breakcore, tu vois. En tout cas.
Non mais c'était sympa.
Non non ouais c'est.
Bah, ça accompagne bien les conversations.
Le nom disait quelque chose. On Nios. A déjà dû en Nios. Passer.
On en a passé. Ils sont venus jouer à la Parc Café si je dis pas de bêtises à la grande époque.
Est-ce qu'ils faisaient partie des groupes où qui avait... Ah ouais
est-ce que dans fait... le lit
Non.
Il me semble qu'ils sont norvégiens, c'est ça en tout cas.
Ils sont... c'est finlandais et ouais. britannique.
Finlande. Et bah, je crois que c'est le seul concert où la maréchaussée a débarqué à l'appart café pour l'arrêter.
Ah bon?
Oui.
Ah, je me souviens. Ah bon.
Il me semble
ce
que
détail.
C'est cette soirée-là.
Ah, sans doute. Bah dis donc. Il nous faudrait un Julien Rouillet pour ça. Pour savoir.
Au moins, une encyclopédie. Alors vous pouvez nous appeler, hein, 0326-02-33-74 pour nous confirmer que c'était bien le soir de Nios et d'un autre groupe finlandais aussi, et, enfin, qui faisait tout autant de bruit, que la police a déboulé au milieu du concert à l'appart café.
Ah oui, je ne me rappelais pas qu'il l'avait arrêté, mais
je me rappelle
certainement.
Pas
bon. Bon, bref, moi je vais. On va...
Alors on ne s'est pas compris, mais tu mets un morceau ou pas?
Ah oui, on va mettre un morceau. On va mettre un morceau, on part en Suisse, là. Mais pour quelque chose d'assez ancien, de 2013.
Ah oui.
C'est marqué que c'est encore actif, mais je n'ai pas l'impression. Ils viennent de Genève. En Genève. Voilà, en Suisse. Et ça s'appelle Elisabeth. Et c'est toujours sur Srotruner. Srotruiner.
Oh, ça, c'est gage de qualité, a priori.
Il y a quand même des groupes comme Cult Leader, Gojewe.
Ça fait un peu de bruit.
Qui d'autre aussi? Il y avait plein d'autres groupes. Converge, ouais. Je vois Converge, mais je suis pas sûr. Oui.
Plein
bon,
de
bref. Voilà.
Font du bruit.
Alors, la batterie bat beaucoup. La guitare gratte. Et la basse bat seule.
Elle bat basse.
Elle bat basse. Et voilà. Et juste écoutez, je sais plus le nom du titre.
C'est Cemetery le... Feeling.
Voilà. Attention, ça casse la tête.
Allez.
Oui, effectivement. Alors,
voilà, et c'est très, on dirait Converge un peu quand même, non?
En plus direct.
Ouais. Et donc
plus frontal.
Ouais. Ce son un peu particulier, c'était à la grande époque de Kurt Ballou, de Mowgli, Mowgli, tout ça.
Ah oui, il en faut peu pour être heureux.
Voilà.
Ah oui, un morceau de 30 secondes, ça suffit, hein, manifestement.
Non, Kurt Ballou, voilà, à l'époque. Il avait, vous vous rappelez?
Oh bah oui.
Bien, évidemment,
bah,
toujours, parce que hein. vous êtes des esthètes de la musique.
Ah.
Donc vous vous en rappelez, ce
toujours,
producteur qui faisait un son, ce son particulier.
Bah, le gratteux de Converge.
Ouais, qui est assez énorme. Quoi. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Salut.
Tout Salut.
À
fait.
Bon, il paraît qu'il suffit de l'appeler, puis il mixe ton album. Hein.
Tu crois?
Ouais, ouais.
D'accord.
Bon, ben. Et ça, Elisabeth, tu dis 10 ans, à peu près.
Ouais, c'est il n'y a pas d'autres trucs, ils n'ont pas sorti d'autres choses, donc peut-être ils attendent d'être bien prêts. Mais je trouve que c'est très brut. Ça m'a bien plu.
Très bien. Alors, eh ben, on va rester dans le... Non, pas du tout. On va aux États-Unis d'Amérique du Nord. Un groupe qui, pour le coup, vient de sortir un album qui s'appelle 7. C'est leur 7e, tout à fait, puisqu'ils existent depuis 1995. Je vous laisse faire le calcul. Il s'agit de Will Haven, groupe de... hardcore, metalcore, noise hardcore, post-metal. On mettra tout ça, si vous voulez, dedans. La dernière piste, là, enfin, une des pistes issues de ce dernier album, 7, allez, on va l'appeler en anglais. No Stars to Guide Me est plutôt post-metal, en tout cas dans l'enrobage. C'est-à-dire qu'il y a une intro, une outro avec quelque chose de très. Avec des mélodies, des guitares, des trucs. Et puis au milieu, bah, vous m'en direz des nouvelles. Oui, la Van, c'est une nouveauté. Vous l'avez dit, ça commence à vous. Molo Polo. Allez, on s'épargne le piano et les violons là. Alors, à la grande époque, dans les années 90, fin 90, ils ont tourné avec, accrochez-vous à votre siège, Deftones, Limp Bizkit, Vision of Disorder. Ils ont fait la première partie en France.
Elton John.
Non.
En France.
Ils ont fait la première partie de Deftones en France sur leur tournée française. Ils ont aussi joué avec Fear Factory, par exemple, à Paris.
Oh, ah ouais,
donc à la grande époque. Effectivement, donc c'est un groupe qui apparemment était plutôt gros dans les années 90. Je dis apparemment parce qu'effectivement, à chaque fois, je passais sur des trucs, ça sonnait un peu trop néo-métal pour mon goût, à mon goût. Et là, je trouve que j'ai pas écouté le reste de l'album, mais que Il y a un petit quelque chose quand
là,
même.
Là, ça te plaît.
Il y a un truc.
Mmh. Ouais, c'est une valse, c'est un petit slow en fait. C'est un petit
oui,
slow.
C'est ça. On disait que c'était une valse.
C'est pour le quart d'heure américain.
Tintin. Ouais, ah. Oui, c'est vrai qu'il y a un côté un peu. Ouais, ouais. C'est cela. Ouais.
Oui, c'est ça.
Très bien.
Bon, il y a peu, je vous parlais des Noizeux de Hit Hit Anita et de leur album à venir, Mouche, qui est sorti donc le 13 octobre dernier via Luik et Vicious
Circle. Il y a plus d'un mois, Marie, c'est plus une nouveauté.
Oui, c'est vrai. Bon, je peux dire que c'était une nouveauté.
Je rigole.
Et donc, pour l'annonce de la sortie de ce nouvel opus, nous avions diffusé le morceau Giving Taking. Eh bien, ce soir, je vous propose de poursuivre l'exploration de Mouche en vous proposant, je fais beaucoup de propositions, hein, d'écouter la piste Disgrâce, on va dire comme ça. Donc, au programme, Hit Anita nous offre une piste qui semble d'abord en retenue avant de laisser entendre plus fortement des riffs en tension et ardent. La frappe qui fait boum boum. Non, elle fait pas boum boum, la frappe.
Elle fait clac clac tac.
Ouais, je sais pas faire la frappe. Voilà, merci. Se montre.
Tu sais faire la caisse claire ?
Mais pas là. Se montre percutante, dynamique et éclatante quand la basse résonne gravement et s'associe au riff de la gratte qui oscille entre passages cycliques et moments plus frontaux. Énervé et rude, on peut dire. Disgrâce est une piste qui, j'espère, vous plaira. Donc, bah, c'est parti.
Great truck pulls up and
Benjamin s'en fout plein dedans. Je les trouve vachement plus directs, en tout cas, que précédemment, quand ils étaient quatre. Les morceaux, les compos en elles-mêmes, je trouve les compos d'avant plus intéressantes. Mais là, oui, c'est plus direct, plus cash. Ça rentre plus dedans. Tout à fait. Je vais rester sur la même lignée. Je te laisserai mettre un morceau après, Pierre, parce que un petit peu dans le même style. Enfin, quoique. En tout cas, ça m'a fait penser à une nouveauté du jour. Princess Thailand, un groupe français qu'on avait déjà pu diffuser en 2020, notamment en l'occurrence à l'occasion de la sortie de leur album précédent qui s'appelait je sais plus. En tout cas, ils viennent de ressortir Golden Frames. Qui était déjà en écoute sur internet via des sites pour les connoisseurs et seuses
des sites un petit peu louches
en avant-première, des sites en .net, en .org, vous voyez le genre.
En 2020,
personnellement à cette époque je découvrais un morceau en particulier, Sonar, avec cette espèce de post-punk un peu lancinant. Là ils viennent de ressortir Golden Frames, donc que j'écoute depuis une semaine ou deux, qui est ma foi fort sympa. C'est dur de choisir une piste dessus, mais on va quand même s'écouter Ghost Car, qui est
la 2.
Et ouais. Entre noise rock, post-punk, un truc super chouette avec voilà, un joli chat sur la pochette. Oui. Il n'a pas de poils, mais il est joli quand même.
On aime bien.
On s'écoute Ghost Car de Princess Thailand. Voilà pour le premier extrait qu'on diffusera de cet album. Parce que c'est franchement pas mal en fait.
C'est dansant.
Franchement pas mal, ça veut dire que c'est vraiment cool en fait. Il faudrait qu'on
tout
arrête
de
dire. C'est pas mal.
C'est pas mal.
C'est pas mal.
C'était très bien.
C'est très bien. Voilà.
C'était très bien. Voilà.
On me dit dans l'oreillette qu'on en réécoutera sûrement
prochainement.
Alors. Moi, j'ai le droit de suiter et j'ai le droit de plomber l'ambiance pour une chanson fleuve d'un groupe qui s'appelle Galvano et viennent de Suède. Et ils sont arrêtés aussi, ça date de 2015. C'était à la grande époque dit du sludge.
Ah.
Alors là, je trouve que c'est la,
c'est bon, tu, c'est
la
fini, maintenant tu peux te laver les cheveux.
Oui, la quintessence du truc, donc je vais aller rapide et je vous laisse découvrir ce petit morceau qui est bien lourd.
Et qui s'appelle
Oui, parce qu'on a eu, j'ai l'impression qu'on a eu ni le nom du groupe, ni le nom du morceau.
Ça s'appelle Galvano.
Ah, Galvano.
C'est sorti sur Trail of the Serpent. Et je ne sais pas quel titre c'est. Ça s'appelle
c'est Driven Snow.
We'll be right back.
sera passé vite cette émission.
Merci Pierre.
Merci d'être resté avec moi dans ce gouffre sans fond.
C'est là qu'on est le mieux.
T'imagines, tu prends ta caisse, tu vas juste à la boulangerie, il y a ce morceau-là qui commence, tu restes devant la boulangerie à attendre comme un con qu'il finisse.
Bon, on arrive à la fin de l'émission.
Oh oui.
On va se quitter avec le morceau Alloy of Pain de Survival Paradox, qui est sorti chez X Image en 2023 sur l'album Dysfunctionalism. Et bah, c'est un petit bouche-ton-boule en mode EBM industriel. Voilà.
Youpi. Très bien. Je me permets de lancer.
Oh, bah, bien sûr, allez-y.
Il nous reste à peine une minute d'antenne. Donc on va écouter un cinquième de ce morceau.
Très bien.
Environ.
On le repassera.
Ouais, fais confiance. On se retrouve la semaine prochaine ou pas?
Bah oui.
Bien sûr.
D'accord. Très bien.
Et après, c'est...
Yeah.
Oui, dans une minute exactement. La semaine prochaine, bah, nous, c'est toujours à 19h.
Voilà.
On essaiera de régler les problèmes techniques.
Ça marche.
Ou pas. On est bien aussi dans le studio.
On est en train
hein.
de parler sur l'intro, quoi. C'est super.
Bon, allez, bonne soirée.
Allez, salut.